Ben écoutez bien ça, on a une policière qui va garder l'anonymat, on comprend pourquoi, qui va nous expliquer un peu comment ça marche, comment les policiers peuvent intervenir et comment ils interviennent quand il y a ce genre d'appel pour chiens dangereux. On va l'appeler Martine. Bonjour Martine.
Oui, bonjour.
Dites-moi comment ça marche. Mettons, là, un citoyen vous appelle pour vous dire, ben je viens d'être attaqué ou chargé, là, comme les gens disent, par un chien potentiellement dangereux. Qu'est-ce que vous faites?
Mais donc, je parle pour la police de Montréal.
Oui.
On a des procédures vraiment. Nous, on a une procédure qui est écrite. Les gens viennent, ils viennent nous rapporter l'incident. Et puis, que ce soit une morsure d'une personne ou d'un animal, comme un chien ou un chat, bien, le policier fait un rapport concernant l'incident. C'est sûr qu'idéalement, quand la personne, on va dire que la personne victime, on va l'appeler comme ça, de son animal qui a eu la morsure ou la personne humaine.
Mm-hmm.
Bien, à ce moment-là, s'ils peuvent identifier le chien, l'adresse, etc., bien, ça nous aide à identifier la personne qui a le chien qui est, mettons, agressif. Puis, avec le rapport, bien, dépendant de l'arrondissement, ce qu'on est, on fait affaire avec différents arrondissements. C'est sûr que là, avec la nouvelle loi qui a changé avec la pandémie, ça se peut que les mises au point de la procédure, là, après ça, où va le rapport peut avoir changé, mais nous, habituellement, on faxait les rapports justement à la... Avant, il y avait la squad canine de la ville de Montréal.
Ouais.
Qui faisait, comme le monsieur disait, là, une inspection de l'animal une fois qu'il avait reçu nos rapports. Comprenez-vous? Puis oui, c'est vrai qu'à l'époque, à moi, là, j'ai l'impression que ça change,
mm-hmm.
que oui, il gardait l'animal à 10 jours. Puis mm-hmm. dépendant de l'arrondissement ce que vous étiez sur l'île de Montréal, il y a certaines villes qui pouvaient même, à la personne, l'animal, mettons, agressif, là, du jour, il y avait même des frais qui pouvaient être chargés à cette personne-là. Mais là, tout change. Mais qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est que quand les gens vont à un endroit, peu importe, je pense, le corps policier, les gens doivent insister pour avoir un rapport de police pour quand même que l'incident soit mentionné et enregistré. Pour que la personne ait au moins un document avec un événement, au moins il y a un numéro d'événement de rapport qui explique qu'il y a eu un incident telle date, telle journée.
Mm-hmm.
Puis à ce moment-là, si le même animal attaque dans la même semaine ou c'est fréquemment et on s'aperçoit que c'est toujours au même coin de rue ou le même arrondissement ou le même endroit, mais là, ça donne plus de poids pour que l'animal soit vraiment examiné, comme si on parle de la nouvelle loi, par un vétérinaire.
Vous, là,
mais
quand vous...
Gens...
Ouais. Mais disons là que ça, vous vous rendez compte, à votre poste de police, Martine, ça fait 3 fois là, qu'il y a des plaintes pour le même animal. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que la police fait?
Bien, à ce moment-là, c'est sûr que si ça fait 3 fois, dépendant de la ville, puis la réglementation de la ville, bien, à ce moment-là, c'est là que nous, c'est ça, Montréal, c'est plus gros, on a un système plus, je pourrais dire, établi. C'est sûr que nous, les rapports vont se rendre aux bons endroits, puis il va y avoir une inspection, là, c'est certain qu'il va y avoir un examen de l'animal.
C'est vous, Martine, qui appelleriez comme policière, c'est vous qui appelleriez le vétérinaire? Est-ce que qui appelle
là,
le vétérinaire?
Avec la nouvelle loi, probablement qu'il y aurait un numéro. Nous, à Montréal, là, je ne sais pas, avant, on faxait le rapport à l'endroit concerné qui faisait l'inspection, mais là, avec la nouvelle loi, j'avoue que je n'ai pas révisé la procédure, si ça a été mis à jour, mais je suis sûre et certain que c'est la même procédure, qu'on va faxer le rapport à qui de droit qui doit examiner l'animal. Ça, c'est certain. Nous, à Montréal, là, je peux vous dire, on est assez à coche là-dessus. Là. Mais pour les autres municipalités, c'est sûr que financièrement, comme expliquait monsieur, c'est pas nécessairement évident, mais moi, je conseille fortement aux gens, que ce soit la SQ, la municipalité quelconque, demander un rapport. Demander un rapport, insister. Pour que la personne, au moins, part avec un document, avec un événement, qui va aider la personne, après ça, pour avoir soit des soins médicaux, pour dire, oui, il y a eu vraiment un rapport de police, voici les incidents qui sont arrivés.
Parce que je comprends, Martine, ce que vous me dites, c'est que finalement, la nouvelle loi ne vous a pas donné plus de moyens pour intervenir sur le terrain, vous, comme policière?
Bien, nous, à Montréal, on va l'avoir, nous, on va continuer notre procédure, là. Ça ne change rien. Nous, notre procédure est quand même très suivie. Parce qu'avec un rapport de police, quand on va voir la personne, bien, c'est sûr qu'on va cogner à la porte, la personne... Elle n'aime pas ça nous voir, voyez-vous.
Ouais.
Puis là, on pose des questions. Mais c'est sûr qu'on a l'effectif et le staff pour faire ça.
Ouais.
C'est sûr que peut-être une municipalité moindre n'a pas tous ces éléments-là. Mais si vous demandez le rapport de police, peut-être que la municipalité qui est moins effective va quand même faire une enquête, mais un petit peu plus tard. Parce que sur le moment, elle l'a peut-être pas. Mais au moins, il y a un événement que la personne peut faire un suivi et appeler le corps de police.
Mais...
qu'est-ce qui est arrivé? T'adhères, j'ai mon numéro d'événement et tatatata, ça l'aide. Puis si vous avez plusieurs, comme la dame là, qui disait qu'il y avait 4 personnes qui étaient à une place, Ça me surprend beaucoup qu'il n'y ait pas eu de rapport de police, puis je vous dis pas que ça s'est pas arrivé, là. Mais à ce moment-là, surtout à Montréal, insister pour avoir le rapport, parce que je peux vous dire qu'il n'y a aucune justification de ne pas l'avoir, le rapport.
Mais il y a une loi. On ne devrait pas avoir à insister. Merci beaucoup, Martine, d'avoir pris le temps de nous parler. C'est très apprécié. Il y a une loi.
Il y a une loi qui dit qu'il faut, comme la nouvelle loi, j'avoue, il faudrait que je me mette à jour, là. Mm-hmm. Mais étant donné qu'on avait la tête ailleurs avec la pandémie, j'avoue. Mais avec la nouvelle loi, si c'est le cas qui met la responsabilité aux villes, il y a une raison plus que les villes insiste auprès de leur corps policier pour faire une procédure pour obliger les policiers à faire un rapport.
Oui, exact.
Il me semble que ça va avec la suite, là.
Merci beaucoup, Martine. On va parler rapidement à Steve, parce que Steve, vous êtes propriétaire d'un bull terrier. Là, vous dites, bon, là, c'est assez, j'entends plein d'affaires, je veux donner l'heure juste.
Oui, c'est exactement. Oui, je suis propriétaire d'un bull terrier. J'ai 35 ans. On dirait que dans votre histoire, je connais un petit peu mon chien, son caractère.
Ouais.
Je crois que ça doit être un caractère qui est typique peut-être au bull terrier. Là, j'en ai beaucoup en tête. C'est ça. Moi, dans le fond, je demeure... j'ai ma maison. J'ai des voisins. C'est des enfants, mes voisins. J'ai toujours un petit peu craint le moment où que je vais être seul. Il va y avoir les jeunes autour. Fait que j'habitue le chien dès tôt à visiter les jeunes. On a joué avec. On s'amuse. Il n'y a pas de problème. Je suis toujours là à les surveiller. Je n'ai jamais mon chien tout seul.
Il est attaché. Votre chien est toujours attaché en laisse.
Oui, mais quand je suis sur le terrain avec le chien, non, il n'est pas toujours en laisse.
Ah oui, mais sur votre terrain à vous. Oui, je comprends.
Okay. Oui, il est à météo. On est sur le terrain, sur le gazon en avant. Mm-hmm. J'arrive de travailler, je sors le chien, je dis bonjour au chien. Puis souvent, les jeunes sont sur la rue, puis ils viennent me voir. Puis c'est eux qui viennent voir le chien en courant. Puis, ouais. Ah, puis tu sais, ils nomment mon chien, puis ils s'en viennent en courant. Bon, le jour où moi, mon terrain, il est tout clôturé à l'arrière. Moi, la porte patio est ouverte chez nous. Le chien peut faire ses besoins. Je suis tout seul à la maison. Je peux travailler des 12-13 heures de temps. Les mêmes jeunes en question, ils se passent les bras sous la clôture pour venir attirer le chien. Tous les signes étaient là que le chien ne voulait pas jouer. Le chien, il a mordu un enfant sur la main qui se passait le bras en dessous de la clôture.
Ah oui, OK.
Ouais. Là, donc, qu'est-ce qu'on fait avec un cas comme ça?
Mm-hmm. Qu'est-ce qui est arrivé?
Parce que
à
moi,
votre
je vais vous le dire, là, vous. Voilà 2 ans quand il y a eu l'accident avec Mme Vanney, là,
ouais.
Ça m'a jeté à terre. J'ai jamais entendu ça, un chien qui a tué un humain, j'en revenais pas. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec un cas comme ça, que c'est plutôt l'inverse, là. C'est la personne qui va sur le terrain privé, puis arrive un incident. Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, ben je comprends. Qu'est-ce qui est arrivé avec votre chien rapidement?
Bon, il n'y a rien arrivé du tout, j'ai été rencontrer les parents. Il n'y a pas, écoutez, là, une morsure de chien, c'est pas ça, je pense, qui fait le plus de dégâts. Ce qui fait du dégât, c'est quand le chien a la morsure puis qu'il se fait aller la tête de gauche à droite.
Ouais.
Là,
ouais.
Ça déchire. Là, il y a beaucoup de dommages.
Donc, il n'y a pas eu de plainte
à chien,
la police.
Il a juste mordu. Ouais. Mm-hmm. Ouais, il a juste mordu. Il a fait un trou dans la peau. C'était pas des dommages excessifs, là. Tu sais, on parlait d'un trou dans la peau. Mais là, il fallait un suivi, savoir le chien, y a-tu la rage, y a-tu tout ça.
Ouais, voilà.
Je suis allé rencontrer les parents. Voulez-vous faire une plainte? Y a-tu quelque chose que je peux améliorer à mon terrain pour pas que ça réarrive? Mais là, écoute, le terrain il est clôturé. Là. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus.
Je comprends. Merci, Steve. Justement, après la pause, Lise Vadnet est avec nous. Puis j'imagine qu'elle va réagir à ce que vous venez de nous dire. Merci beaucoup de votre appel. À tout de suite, tout le monde. Lise Vadnet, la sœur de Christiane Vadnet, qui a été tuée par un chien de type pitbull, le chien de son voisin. Lise est également l'auteur du livre « Attention, chien dangereux ». Bonjour, Madame Vadnet. Est-ce que vous estimez, à la lumière de tout ce qui vient d'être dit, que finalement la loi est assez respectée, cette nouvelle loi qui aurait dû entrer en vigueur le 3 mars 2020?
Bonjour. Mais je croirais pas, non. En fait, on n'en entendait plus parler au cours des derniers mois, puis je me questionnais à savoir comment ça se passait. Et là, ce qu'on comprend, c'est que les situations arrivent et j'ai reçu aussi quelques courriels dans ce sens-là. J'ai peur du chien de voir mon voisin, je rencontre un chien, ça me fait peur, qu'est-ce que je fais? Moi, je leur dis toujours, dénoncez, faites des plaintes. Mais là, ce que je comprends, c'est que même quand on fait des plaintes, c'est loin de régler toutes les situations. Moi, je pense que la loi, elle était quand même assez claire, mais les municipalités ont comme pas pris vraiment ça au sérieux. C'est comme si qu'une situation n'arrive pas chez eux, ils n'ont pas de marche à suivre. Alors que ça devrait être très clair, quand un chien attaque, que ce soit un être humain ou un autre animal et qui est blessé, assez pour avoir que la personne ou l'animal a besoin de soins, ça devrait être très clair, une marche à suivre. un, le chien doit être saisi, doit être évalué, et après ça, on évalue la situation. Mais rapidement, moi, je pense que le chien doit être saisi. Ça me dérange quand j'entends, après 2-3 événements, comment ça, 2-3 événements? Le premier événement, c'en est un de trop. On sait très bien qu'il y a une gradation comme dans les attaques. On attaque un chien une première fois, une petite morsure, après ça, une plus grosse, après ça, c'est un être humain. Non, dès la c'est ça de la prévention. Faut pas attendre qu'un enfant se fasse défigurer ou n'importe qui se fasse attaquer. La loi, elle est là pour ça. Je trouve ça vraiment dommage. Puis quand on dit que les municipalités n'ont pas les moyens, ben il faut trouver une solution. Peut-être se regrouper quelques municipalités ensemble. Puis il faut vraiment s'asseoir et regarder la marche à suivre. Puis moi, je pense que la première étape, quand il y a eu une attaque sérieuse, on s'entend là, première étape, saisir le chien. Moi, j'ai entendu des histoires là, où est-ce que la personne s'est fait attaquer, elle rencontre encore le chien, ça prend 10 jours avant que le chien soit saisi. On dit, on est allé chez le propriétaire, ça répondait pas. Je m'excuse, mais il faut aller plus loin que ça. On va pas visiter le propriétaire une journée, une fois par 2-3 jours pour voir si le propriétaire est là. C'est sérieux, une attaque de chien. Puis je pense que on n'en est pas encore là à reconnaître que c'est sérieux. On attend toujours qu'il y ait des événements dramatiques pour réagir. Je trouve ça vraiment déplorable.
Là, normalement, cette loi-là qui a été mise en vigueur en mars dernier, bon, c'est sûr que c'est arrivé à un moment où on était tous confinés. Et je comprends que les municipalités aient pu dire, ben, on a d'autres chats à fouetter. Dans ce cas-ci, c'était peut-être des chiens là, dont il aurait fallu s'occuper un peu plus. Avez-vous l'impression que là, il est temps de le faire, là, ce qu'on n'a pas fait depuis 5 mois, là, il faut le faire, là? Parce qu'il y a vraiment une hausse des cas de morsures de chiens au Québec, là.
Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de municipalités qui sont pas touchées peut-être encore, et ceux qui sont touchés. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu la pandémie, puis on est encore là-dedans. Sauf que on a aussi le problème des chiens qui augmente. Alors, il faut s'asseoir, il faut faire quelque chose. Moi, je pense qu'il faut pas que ça devienne une excuse. Parce qu'au contraire, le fait qu'on soit confiné, on est plus souvent avec notre chien. On l'a vu, là, les promenades de chiens sont beaucoup plus nombreuses. Alors, les possibilités d'avoir des attaques de chiens sont aussi beaucoup plus nombreuses. Alors, je pense que ça devrait faire partie des priorités de toutes les municipalités, même s'ils n'ont eu aucun cas chez eux.
Oui. Avant de vous laisser aller, Lise Vadnais, il y a Steve, là, juste avant vous, là, qui est propriétaire d'un boule terrier, qui disait, ben moi, mon chien, il a mordu un jeune au bras, mais le jeune avait le bras à travers la clôture dans ma cour. À un moment donné, faites pas peur à nos chiens, ils vont pas vous attaquer.
Oui, mais la situation de l'auditeur qui a parlé juste avant moi, je me dis, bon, c'est vraiment une situation exceptionnelle. Et effectivement, les enfants, bon, il faut qu'ils respectent les terrains privés, il y a de l'éducation à faire là, mais je pense pas que la plupart des situations, ce soit ça le problème, là. C'est vraiment une situation exceptionnelle qui est arrivée. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'entends quelque chose du genre.
Merci beaucoup, Lise Vadnais. J'imagine que vous allez suivre le dossier de près.
Oh, que oui, certain.
Merci. Au revoir. On a Alain Kyoki, qui est un spécialiste en comportement animalier, qui nous écoute et qui voulait rajouter quelque chose sur le fait que c'est peut-être intéressant pour les vétérinaires. Là. Ça a été comme un beau cadeau, cette loi, Alain. C'est un peu ce que vous voulez nous dire, parce que les évaluations faites par les vétérinaires, ça coûte pas 2 piastres, hein?
Ouais. Ben justement, j'ai retrouvé la convocation de mon client, là. Donc, je vais juste lire la fin, là. Vous avez l'obligation de vous présenter à la SPA à la date prévue avec votre chien et de prévoir un paiement des frais de 500 $ associés à l'examen des vétérinaires visant à évaluer sa dangerosité. À la suite de cet examen, nous vous ferons parvenir par écrit exigence que vous devez respecter. Enfin, sachez que le fait de ne pas vous présenter à cet examen constitue une infraction à l'article 6 du règlement provincial. Vous pourriez ainsi vous exposer à une amende minimale de 1 000 $.
OK, donc c'est au propriétaire du chien jugé dangereux de payer ces frais-là. Fait qu'on comprend que quand on sonne à la porte, il soit pas là. Merci beaucoup, Alain. On va conclure avec Carl Girard. Il nous reste à peu près 1 minute. Carl, directeur de la SPA des cantons, contrôleur animalier, éducateur canin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Visiblement, on a mis le doigt sur quelque chose, là. Les municipalités ont pas vraiment intention d'agir. Les protocoles sont pas clairs pour certains. Qu'est-ce qu'on fait?
je pense qu'on effectivement, on a mis le doigt sur le bobo, puis il faut organiser nos villes. C'est au gouvernement à organiser nos villes, leur donner les outils. Comme je vous disais, le cours d'éducateur canin, il a été créé pour ça, il existe. C'est au gouvernement de le financer, puis de fournir aux municipalités des gens compétents pour les faire. Puis Mme Dadenet avait 100% raison, ça doit être fait le plus rapidement possible. On ne doit pas attendre 2, 3, 4 événements. Au premier événement, il devrait déjà avoir quelque chose qui est entrepris, mais les municipalités n'ont pas ces moyens-là, puis plusieurs petites municipalités n'ont pas l'organisation nécessaire. Mm-hmm. C'est au gouvernement de les fournir, ces organisations-là.
On dirait qu'on a demandé l'avis seulement de l'Ordre des vétérinaires du Québec.
Exactement. Exactement. Je ne sais pas qui a été consulté pour cette loi-là. J'ai l'impression qu'il n'y a personne du milieu qui a été consulté.
Merci beaucoup. On va suivre ça parce que c'est un dossier intéressant puis ça touche beaucoup de gens puis une question de sécurité des gens ici. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain, bien sûr. Passez une bonne journée.